La chronique environnement, une présentation de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre. Vous avez des questions? Simplifiez-vous la vie et cliquez sur le ridl.ca ou suivez-nous sur Facebook au Régie de la Lièvre-agente de communication ou encore appelez-nous au 819-623-7382 et nous fera plaisir de vous répondre. La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre pour un environnement meilleur.
Aujourd'hui, nous recevons le Cobali, mais pas le Cobali au complet. On est avec Caroline Collin, que vous entendez et que vous connaissez déjà un peu. Elle est responsable des communications, évidemment, au Cobali, que vous connaissez également, un organisme sans but lucratif qui s'occupe de la gestion intégrée de l'eau du bassin du versant de la Lièvre et de la rivière du Lièvre. J'essaie d'aller trop vite. Caroline,
pas de problème,
tu m'en veux pas, hein?
Ben non.
Aujourd'hui, on va parler notamment aux nombreux pêcheurs qu'on a dans notre MRC et dans le coin ici, évidemment, dans toute la région, finalement.
Oui.
Puisqu'on va parler des poissons, principalement.
Exactement, hein? Parce que, bon, même ces temps-ci, c'est vrai qu'on entend surtout parler de chasse. Hein?
Oui,
bon,
pas
c'est
mal.
Normal, c'est la période de l'année. Mais on peut dire, en fait, que la pêche au Québec, on en mange.
C'est clair.
Savais-tu qu'il y a environ 650 000 pêcheurs au Québec?
Okay.
Donc, c'est deux fois plus, dans le fond, que le nombre de chasseurs. Donc, c'est majeur. Puis, dans le fond, dans la région des Laurentides, hein, c'est grosso modo la même chose. En fait, on est la région au Québec où les adeptes de la pêche sportive, donc autant les locaux que les visiteurs, sont les plus nombreux. Donc, environ 125 000 adeptes. Donc, c'est énorme, là.
My God, effectivement. Oui, je pensais pas que c'était autant que ça. Puis, je pensais pas que c'était nous qui se distinguaient le plus.
Ouais.
J'aurais pensé peut-être la Gaspésie ou quelque chose comme ça. Ils doivent faire partie du top 5.
Ils sont plus loin aussi des grandes villes. Donc
c'est vrai, un petit peu moins de visiteurs également.
Oui. Donc, évidemment, ben, tous ces pêcheurs-là, ça représente un apport économique majeur. Donc, la pêche génère 100 millions de dollars en dépenses touristiques dans la région. Puis
pas
ça
mal.
Permet, oui, ça permet de créer ou de maintenir 868 emplois. Donc, encore là, c'est grosso modo le double de ce qui est généré par la chasse.
Okay.
Dans le fond, avec ces quelques chiffres-là, ce que je voulais démontrer, c'est à quel point ben, nos poissons, ce sont des atouts substantiels pour notre économie régionale.
C'est sûr.
Alors, qu'on aime seulement les observer ou encore les pêcher, ils méritent amplement là, qu'on s'intéresse à eux et à leur habitat aussi.
Okay.
Donc, nos lacs, nos rivières, parce que, ben, comme on dit, pas d'habitat, pas de poissons.
Bon, là, tu viens de dire le mot habitat à deux reprises. Donc, mon instinct me dit que tu veux me parler de l'habitat du poisson, mais là, on parle de quoi? Pas juste le lac, pas juste la rivière. Ça doit être plus précis que ça un peu.
Exact. En fait, c'est un lieu qui sert à la fois aux animaux en général, mais dans ce cas-ci, aux poissons, à se nourrir, à s'abriter et puis à se reproduire. Pour les poissons, on parle alors de frayère.
Okay.
Bref, dans le fond, les poissons vivent pas toujours au même endroit. Hein. Leur habitat est multiple.
Ça serait tellement facile de pêcher,
oui,
sinon.
Un peu trop, en fait. Donc, leur habitat est multiple selon l'espèce, mais aussi selon les stades de leur vie puis selon les activités qu'ils font. Alors, un peu comme nous, hein, on n'est pas 24 heures sur 24 dans notre maison ou notre appartement.
Oui, dans une année normale.
Oui, c'est ça. Alors, habituellement, on sort pour aller travailler. Je viens de dire habituellement, là, avec le télétravail, c'est une autre chose. On va à l'épicerie aussi pour chercher notre nourriture. On sort pour nos loisirs, pratiquer nos sports favoris, etc. Donc, ben, comme on l'a dit, hein, avec la COVID, le confinement qu'on a vécu, disons qu'on comprend assez vite que ben, notre habitat, c'est loin d'être uniquement l'adresse où on habite.
C'est clair. Si on a envie d'être un petit peu plus précis, est-ce que tu es capable de nous donner des exemples d'habitat pour différents poissons?
Oui, ben, on va commencer par l'ombre de fontaine, hein, qu'on appelle aussi la truite mouchetée. Ben, c'est un poisson qui est très apprécié, là, on le sait, des pêcheurs pour sa chair délicieuse,
oui.
Mais c'est aussi un poisson qui est très sensible à la température de l'eau.
Ah, OK.
Il a besoin d'une eau fraîche pour vivre, donc en dessous là, de 20 degrés Celsius. Puis en plus de ça, ben, l'eau doit être clair et très oxygéné. Donc, pour sa reproduction, en plus, il y a des besoins encore plus précis. Donc, un lieu où on retrouve de l'eau qui est peu profonde,
okay.
Encore plus froide que je le disais tout à l'heure, donc cette fois-ci entre 5 et 10 degrés. Puis, en plus, il doit y avoir, au fond de l'eau, du gravier. Alors,
mon Dieu.
Oui, donc tous ces éléments-là doivent s'y retrouver. Donc, c'est pour ça que souvent, les frayères des ombres de fontaine se retrouvent souvent à la tête des cours d'eau. Et puis, le poisson va avoir à parcourir là, souvent plusieurs kilomètres là, pour trouver ce lieu parfaitement adapté à la survie des œufs et aussi au développement des alevins par la suite. Donc,
pardon?
C'est le nom.
Oui. Qu'est-ce qu'un alevin?
Tout simplement, les jeunes poissons, là, une fois qu'ils sont éclos, on appelle ça des alevins. Ils ont comme une espèce de petit sac qui vient avec eux là, pour les premiers jours de leur vie. Mais en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne suis pas une spécialiste, mais c'est vraiment au premier stade de leur vie.
Mais je pense que c'est la première fois que j'entends ce mot-là.
C'est
je connaissais Alvin et les chipmunks, mais alevin, je ne connaissais pas ça.
C'est pas le même genre d'alevin.
Non, OK, d'accord.
Donc, si on prend maintenant le doré jaune, lui, il est moins capricieux en termes d'habitat, mais il y a quelque chose de particulier, je ne sais pas si tu étais au courant.
Non.
Il est lucifuge. Donc,
parfait.
Un autre mot un peu...
Il est dans la gang de Lucifer, c'est ça?
Pas tout à fait. Ben, on pourrait faire des rapprochements. En fait, ça signifie simplement que ses yeux sont sensibles à la lumière. Donc, c'est pourquoi il apprécie les eaux qui sont plus profondes, hein, où il y a moins de lumière donc, qui arrive.
Et plus opaques.
Exactement. Donc, des eaux plus turbides, donc moins transparentes, contrairement à l'ombre de fontaine dont on vient de parler. Donc, on va en retrouver davantage, par exemple, dans les grands lacs ou les grandes rivières.
D'accord.
Ceci dit, pour se reproduire, lui aussi va avoir besoin d'un site où l'eau est peu profonde, donc moins d'un mètre. Et en plus, dans le fond, il a besoin que le courant de l'eau va permettre de garder le fond graveleux propre, donc sans trop de sédiments, par exemple, dans une rivière ou au pied des chutes.
Okay.
Maintenant, si on prend le cas du brochet ou de la perche chaude, eux, leur habitat, c'est surtout constitué d'herbiers. Dans le fond, c'est des plantes aquatiques.
Ouais.
Que ce soit pour s'y cacher, y chasser, mais aussi pour y pondre leurs œufs. Alors, dans le fond, là, avec ces quelques exemples-là, ça nous montre que les poissons, ben, ils ont besoin d'un peu plus que simplement de l'eau hein, pour vivre dans nos lacs et nos rivières et nos ruisseaux. Ils ont besoin d'y retrouver finalement une variété d'habitats et d'une bonne qualité d'eau.
Okay.
Puis, en fait, c'est encore plus vrai pour les espèces qu'on souhaite particulièrement voir mordre au bout de notre ligne à pêche. Parce que c'est souvent des espèces qui sont moins tolérantes, donc qui ont une moins grande capacité d'adaptation là, face aux aléas de nos cours d'eau.
OK, Caroline, tu es du Kobali, donc je pense que tu es bien placée pour nous donner des trucs. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut aider un peu les poissons pour avoir un bel habitat puis pour pouvoir... J'ai faim.
Yes! Alors, si on en revient à la température de l'eau dont on a parlé tout à l'heure pour l'ombre de fontaine, ben, des bandes riveraines bien végétalisées vont aider justement à rafraîchir l'eau qui va se retrouver sur le bord des lacs, des rivières, des ruisseaux, là où c'est moins profond. Parce que, bon, les arbres, les arbustes, ben, ça crée de l'ombre. Hein? Si on se rappelle cet été...
C'est une belle logique.
Là, il fait froid, là, mais si on se rappelle l'été, là, il y a eu plusieurs canicules, ben, câline qu'on les cherchait, hein, les ondes d'ombre pour se rafraîchir. Alors, puis il ne faut pas oublier aussi que le bois mort qu'on retrouve dans le littoral, donc la partie encore là peu profonde des plans d'eau, ben ça aussi, ça crée de l'ombre pour les poissons qui vont se retrouver en dessous. Alors, on les laisse là.
OK, d'accord.
Un problème aussi sur lequel on peut agir, c'est l'ensablement des frayères. Puis ça, c'est vraiment problématique parce qu'en fait, ça va causer la mort des œufs. Puis à terme, bien, ça va éliminer complètement des sites de frais, ce qui signifie donc une décroissance de certaines populations de poissons.
J'imagine que moins on a d'arbres et tout ça dans les bandes riveraines, plus on s'en va vers du sable. Donc, on se cause un problème à moyen-long terme.
Oui, tu vas un petit peu en avant dans ce que j'amenais comme information, mais écoute...
C'est ton problème!
Les bandes riveraines, justement, c'est une barrière, finalement, contre l'érosion, donc contre l'apport en sédiments de sable et etc., là, qui se retrouverait sinon dans le lac.
Okay.
Donc, effectivement, les bandes riveraines, c'est une bonne solution. Puis, un autre élément auquel il faut faire attention, c'est quand on fait des travaux sur le terrain, que ce soit de nouvelles constructions ou simplement l'aménagement, bien, il faut éviter d'avoir le sol à nu, donc c'est-à-dire de ne pas avoir de végétation dessus. Donc, quand il y a de la végétation, habituellement, l'eau ne réussit pas à défaire des particules puis à emmener ça dans
le lac. C'est logique.
Alors, je retourne à ma chronique dans l'ordre. On était rendu dans le fond aux herbiers. C'est évident que si on vient racler le fond de notre bord de l'eau pour s'aménager une plage digne d'un Club Med, c'est sûr qu'on vient d'enlever un élément majeur pour l'habitat de nombreux poissons. Alors, en passant, hein, c'est une pratique qui est interdite.
C'est important de le dire quand même.
Il faut se le rappeler. Par ailleurs, mais quand on dit qu'il faut éviter de naviguer dans des eaux peu profondes, à proximité des rives, ben, en plus des vagues que ça occasionne, c'est aussi parce que c'est dans ces endroits-là, évidemment, qu'il va y avoir les herbiers. Alors, si on passe là avec notre bateau moteur, c'est évident qu'on vient de détruire l'habitat des poissons et en plus des œufs qui peuvent s'y retrouver. Alors, c'est d'autant plus problématique si on est en moto marine parce qu'avec la propulsion par jet, ben, c'est tellement puissant que ça va provoquer un brassage dans le fond de l'eau. Et même si on est à proximité des herbiers, ben, ça va venir... ça va venir relarguer des sédiments, dans le fond, des particules de sable et compagnie, dans l'eau. Et là, c'est problématique pour la respiration des poissons. Pour faire un parallèle avec les humains, quand on a du smog, hein, l'été, quand il fait très chaud, ou l'hiver, quand on est plusieurs à brûler du bois en même temps dans nos foyers, hein, c'est pas bon pour nos poumons habituellement.
C'est une
évidence. Ben, c'est la même chose pour les poissons. Eux, dans l'eau, quand il y a beaucoup de particules, c'est pas évident pour eux de respirer. Et encore plus pour les œufs de poissons. Alors, dans le fond... pour aller plus loin, en terminant, j'inviterai les auditeurs à aller visionner notre nouvelle web-série qui porte le nom de 20 milieux... 20, je me trompe tout le temps. 20 milieux sous les rivières. C'est parce qu'on essaie de faire un jeu de mots.
Ben oui, c'est astucieux, en même temps, c'est dangereux.
C'est ça. Alors, qui parle justement de l'habitat des poissons d'intérêt sportif et des façons dont on peut protéger cet habitat-là pour pouvoir ensuite en pêcher.
Ben, j'adore ça. Message important, évidemment, pour tous les pêcheurs qui vont vouloir continuer à pêcher le plus longtemps possible. Et pour tous les plaisanciers également. Aujourd'hui, on était avec Caroline Collin, responsable aux communications au Cobali. Merci énormément pour la chronique. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le cobali.org. Oui. C'est assez simple que je m'en souvienne par cœur, ce qui fait que vous êtes capable, bon, vous autres aussi. Puis sinon, ben, vous allez directement sur le site de CFLO dans la page associée à l'émission. Il y a des après-midi, il y a des avant-midi comme ça, pardon. Et c'est très simple, vous allez pouvoir trouver la chronique un peu plus tard cet après-midi. Après-midi. Merci beaucoup. OK.
Merci,
là, je pense que j'ai faim pour vrai. On va aller régler ça. On te dit à la prochaine, Caroline.
Oui, certainement.
Salut.
Bye.